normalement, quand on a une idée de ce qu'on veut émettre comme position, on y a réfléchi. Donc, on pense qu'en 2 minutes, pour mettre la table, c'est faisable. Ça permet à d'autres citoyens de s'exprimer. Donc, je vais être assez flexible, là, mais ne vous surprenez pas si je vous demande de conclure. Donc, on va. Je vous rappelle que, s'il vous plaît, à l'arrière, s'il vous plaît. Ouais, je vais sortir mes gros bras. S'il vous plaît, à l'arrière. Un peu de. Donc, la parole est à vous. Je vous rappelle que normalement, votre pensée devrait s'exprimer en dedans de 2 minutes. Nous n'autoriserons pas les questions, contrairement à ce matin, parce que d'abord, ce n'est pas une présentation de mémoire, c'est votre position qu'on cherche. Et je veux éviter absolument qu'on parte un débat avec une question pointue à une personne ou à un représentant de la municipalité. C'est la meilleure façon de ne pas faire en sorte que la plus large expression de votre opinion se fasse. Donc, vous arrivez à l'avant, vous exprimez votre position pour ou contre et pourquoi, si possible. Et à partir des avantages et inconvénients que la présentation de Mme Chabot a laissé voir, il y a d'autres avantages et inconvénients qui ont été mentionnés dans la présentation des mémoires. Donc, on souhaite qu'à tour de rôle, vous veniez vous exprimer, ceux qui veulent le faire, en prenant le micro. Et il y aura un deuxième droit de parole s'il n'y a plus d'autres personnes qui, dans un premier tour, veulent s'exprimer. Il n'y a pas de problème, on est là pour entendre tous les points de vue. Donc, voilà. Alors, c'est lancé. Qui veut s'avancer pour casser la glace? Bien, c'est comme vous voulez, mais vous pouvez vous tourner, là. C'est le micro. Ah oui, OK. Le micro, il y a long fil. Alors, vous vous présentez, comme d'habitude.
On n'a pas à venir, puis si on est nerveux, bien, ça paraît moins. Donc, bonjour. Attendez, je vais partir ma minuterie. Catherine Lescope-Saint-Clair, propriétaire au Lac à la Pêche, et aussi membre du CA, comme je disais, de l'Association des propriétaires du Lac à la Pêche depuis 2022. Puis je viens, dans le fond, au Lac à la Pêche depuis que j'ai 12 ans. Dans le fond, moi, je suis pour, c'est sûr, d'entreprendre une démarche pour créer un projet de paysage humanisé pour Saint-Mathieu-du-Parc. J'y vois beaucoup d'avantages. Aussi, on n'a peut-être pas fait ressortir que c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui détermine les statuts. Et la catégorie 5, ça serait la catégorie d'air protégé la moins contraignante. Aussi, le Québec a un objectif de protéger 30 % du territoire pour 2030. Donc, si on embarquait dans cette démarche-là, ben, on serait aussi dans une initiative provinciale de conservation. Je pense que le projet de paysage humanisé ou le statut, c'est une excellente option pour conserver l'environnement tout en habitant le territoire. Et comme l'a fait remarquer Diane et d'autres, en fait, on décide de ce qu'on met dans notre plan de conservation. Donc, il ne faut pas craindre d'avance ou avoir peur concernant la réglementation parce que c'est nous, ensemble, qui décidons ce qu'on veut faire pour ce projet de paysage humanisé. Puis les gens ont demandé « qu'est-ce qu'il y a d'unique à Saint-Mathieu? » C'est sûr, la qualité de l'eau, comme on l'a dit, est unique. On n'a presque pas de plantes exotiques envahissantes floristiques aquatiques, ou à peu près pas. On en a par ailleurs des terrestres. Et puis, un projet de paysage humanisé, comme je vous nomme la renouée du Japon, permettrait de mieux encadrer, essayer de contrôler cette plante-là qui prend la place des plantes indigènes et puis qui peut envahir un peu partout. Vraiment, c'est assez surprenant puis envahissant. OK, ça, c'est
alors,
à mon deux.
En conclusion, s'il vous plaît.
En conclusion, je pense qu'il faut se donner l'occasion, de se donner la chance, comme en 1980 pour la question référendaire, d'étudier la question de faire un paysage humanisé et non pas se bloquer d'avance en disant non aujourd'hui. C'est pour ça que ça vaut la peine de dire oui pour essayer quelque chose.
Merci
je vous remercie.
Beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, On va vous passer le micro. On vous demande de vous identifier. Êtes-vous à l'aise de rester là? Ça va?
Aucun oui? problème.
Alors, identifiez-vous, s'il vous plaît.
Michel Leblanc, résident de Saint-Mathieu-du-Parc. Je suis impliqué bénévolement dans quelques organismes de la municipalité. J'aimerais ça que vous me corrigiez si je dis des faussetés. Qu'on fasse paysage humanisé ou non, la municipalité, c'est elle qui établit les règlements et c'est avec le concours des citoyens.
Juste avant de laisser la parole au maire là-dessus.
Ben, au maire ou à qui que ce soit.
Ça va, mais je vous rappelle, l'objectif, c'est que vous émettiez votre opinion par rapport à cette démarche-là ou pas, mais je vais quand même permettre la réponse.
Parfait.
Je vais vous laisser continuer.
Ça va être très courte, comme je le disais ce matin, la réponse est oui.
Tout à fait. Alors, qu'on est soit dans paysage humanisé ou non, ce qui va ressortir des règlements qui vont être établis à Saint-Mathieu-du-Parc, ça va être fait avec la concertation citoyenne, avec la volonté citoyenne. Alors, à cet effet-là, on n'a pas nécessairement à avoir peur de se faire imposer des règles qu'on n'aimerait pas se faire imposer. C'est ma première constatation. La deuxième, c'est que si on s'apprête, dans les deux cas, on s'apprête à revoir la réglementation. D'un côté, c'est de la revoir dans le cadre d'un projet de paysage humanisé pour lequel on bénéficie de subventions de l'ordre de 300 000 que vous m'avez dit qui avait déjà été accordé, où on peut aller se chercher de l'aide, de l'expertise et du soutien à se faire une réglementation et à faire du travail en amont rapidement. Alors que de l'autre côté, ben, on va se fier au POUD et toutes les priorités de la municipalité qui doit gérer un paquet d'autres. J'ai un malaise, c'est qu'aujourd'hui, on se pose contre un projet qui n'est pas encore élaboré. Le projet aurait dû se faire élaborer d'abord et ensuite le proposer aux citoyens pour faire une consultation et savoir si on est pour ou contre ce projet-là. Présentement, on va voter pour ou contre rien.
Je respecte votre opinion. Je ne vais pas m'immiscer dans le fond. Là. Je suis neutre dans ça. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que la démarche de consultation, c'est est-ce qu'on poursuit la démarche ou pas. Ce n'est pas tellement le projet qui va aboutir. Alors, c'est juste la précision que je voulais apporter.
Merci. Vous avez raison.
Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vais laisser à d'autres le soin d'intervenir. Alors, identifiez-vous, s'il vous plaît.
Mon nom est Jean Berry, demeure à La Goulet. Écoutez, j'abonde 100% de les propos de M. Bertrand et de son mémoire. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme directeur général dans la MRC Bécancour. Et évidemment, je corrobore ce qui a été mentionné. La réglementation, il y en a suffisamment pour nous protéger. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Cependant, j'ai une question pour vous, M. le maire. Vous avez dit une municipalité peut toujours revirer de bord, je comprends. Supposons qu'on commence, qu'on embande là-dedans, puis on accepte 300 000 $. Est-ce que, 8 ans après, une municipalité qui voudrait revirer de bord devrait, dans le protocole, rembourser le dit montant?
Non. Bien sûr que non. Maintenant, quand je dis qu'on peut toujours revirer de bord, il y a une façon de le dire qui découle de la structure de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Dans la loi, il n'est pas dit qu'une municipalité peut virer de bord. Okay. Ce qui est écrit, c'est l'article, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est un article très précis avec beaucoup d'alinéas. Là. Et ce qui est dit, c'est que le ministre peut retirer le statut de paysage humanisé à une municipalité qui l'aurait déjà, si le plan de conservation a été modifié sans son accord. Okay. Comprenez-vous?
Oui.
Fait que c'est comme la preuve par son contraire. Là. C'est-à-dire que une municipalité s'engage pour 25 ans minimum. Après ça, elle ne peut pas aller voir le ministre et dire, savez-vous, on a changé d'idée, on veut se retirer. Pour se retirer, il faudrait jouer un peu... je ne sais pas de comment le dire, là, mais d'une façon un peu imbécile. C'est-à-dire qu'on dirait, si on veut se débarrasser du pays, mettons, là, un scénario où une municipalité voudrait se débarrasser du statut, il faudrait qu'on change le plan de conservation de façon importante en sachant que le ministre ne l'acceptera pas et là, on perdrait le statut. Comprenez-vous?
C'est bien. Juste deux secondes.
Je vous laisse compléter.
Écoutez, ce matin, lorsqu'on a présenté comme un avantage le 25 ans, de délai. Ça peut aussi être vu, selon un autre point de vue, comme un inconvénient.
Merci, monsieur. Alors, je décode votre position par votre appui aux mémoires que M. Bertrand a présentées ce matin. M. Beaulieu.
Oui, bonjour, Carole Beaulieu. De ce que j'entends, on dirait que ce 300 000 $-là fait saliver beaucoup de monde. Okay? Mais il faut juste se rappeler que la subvention de 300 000 est aussi attachée à une participation de la municipalité, soit en temps, en ressources ou en financière. Donc, arrêtons de dire que c'est 300 000 $ gratuits. Ce n'est pas 300 000 $ gratuits, c'est 300 000 $ plus la contribution municipale. Si la contribution municipale est en temps, en ressources humaines, et qu'on considère que ça vaut zéro, je trouve que c'est particulièrement insultant pour nos employés qui font du travail quotidiennement pour le bénéfice des citoyens.
D'accord, merci. Oui, madame, allez-y.
Bonjour, José Lavoie, Lac-Magnan. Juste pour rassurer tout le monde, j'ai pas la grippe, j'ai une bronchite, fait que ça s'attrape pas, si vous m'entendez tousser, là.
On est rassurés.
OK. Regardez, moi, évidemment, ça fait un certain temps qu'on entend parler du projet Paysage humanisé. Il y a eu les pour et les contre, on a eu beaucoup d'informations. Moi, je m'affirme comme étant contre le projet. La raison, c'est que moi, je pense aux résidents avant tout. Les résidents perdraient des droits de changement à leur résidence s'ils sont dans une certaine bande. D'ailleurs, le règlement a déjà été passé. Est-ce qu'on va avoir des questions tout à l'heure? J'aurais une question.
En fait, on vise à aller chercher votre opinion, mais on va être souple là-dessus. Si vous avez une question assez précise, allez-y.
OK. Ben, je vais finir mon intervention, puis je vais poser une question après. Donc, moi, je suis résidente au lac Magnan. Moi, je suis de l'autre côté du lac. Mes beaux-parents ont un chalet où ils vont en temps partiel, mais qui prévoyaient faire des changements en maison bigénérationnelle, parce qu'ils sont au-dessus de 80 ans maintenant. Mon mari est fils unique, donc on est leur seule famille, leur famille est à l'extérieur. Donc moi, la raison pourquoi je suis contre le programme, c'est justement que si on a des restrictions qu'on ne peut pas modifier le chalet existant pour pouvoir accueillir nos beaux-parents, de façon à ce qu'ils puissent, ils ne pourraient pas rester là tout seuls, il faudrait qu'un de nos enfants vive avec eux, et là, ce ne serait pas possible. Donc, malheureusement, ça restreindrait les possibilités de réunir les familles. Donc là, je trouve que c'est contre-productif, on ne permet pas aux résidents de pouvoir bénéficier de leur résidence à leur guise, parce que le règlement est trop restrictif face à la berge, alors qu'on sait que juste rajouter une chambre de plus ne va pas changer énormément dans une résidence qui est déjà existante, avec toutes les respects des règles environnementales déjà en vigueur. Donc, c'est la raison pourquoi, moi, je trouve que le paysage humanisé est très restrictif, puis il limite la possibilité des gens de faire les ajustements nécessaires à leur résidence pour répondre à leurs besoins, soit des nouvelles familles qui s'en viennent, ou soit des personnes vieillissantes qui ont besoin d'accompagnement. Donc, ça, c'est ma question.
On a bien compris votre position.
D'où ma question. Oui. On sait que le règlement a été changé pour que la bande riveraine a été allongée jusqu'à 25 mètres, qu'on m'a dit. Est-ce que c'est possible de rétroactivement enlever ça puis de remettre comme c'était avant?
Tout est possible. Un règlement municipal est sous l'autorité du conseil municipal. Alors, le conseil municipal actuel peut faire ce qu'il veut. Maintenant, un conseil responsable ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qui est désirable de faire, puis on essaye d'avoir le support de la population. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'automne prochain, il va y avoir une nouvelle journée de consultation, mais cette fois-ci directement sur les services rendus à la municipalité, y compris l'urbanisme. Et ça sera à ce moment-là qu'on discutera de la possibilité de toucher à certains règlements d'urbanisme ou pas.
OK.
Merci, madame.
Merci beaucoup et merci de votre implication.
Merci. Oui, identifiez-vous, s'il vous plaît.
Patrick.
Bon, c'est bon.
Donc, Patrick Rasmussen, j'ai plusieurs chapeaux, je vais les décliner. Avant tout, je suis à Saint-Mathieu-du-Parc depuis 1994. J'ai atterri au lac Goulet et là, je suis actuellement résident au lac Bellemare, dans la bande riveraine, dans un coin privilégié en milieu naturel. J'ai aussi le chapeau du Mouvement vert Mauricie. J'en suis le président. On a participé à plusieurs luttes dans différents dossiers depuis de nombreuses années. Le Mouvement vert possède une réserve naturelle pour la protection de l'habitat de la tortue des bois, située tout juste en aval du lac Mongrain. J'ai aussi acheté avec mon frère jumeau une réserve naturelle, une terre de bois, 29 hectares, qui est dédiée pour la conservation pure et dure de la tortue des bois. J'ai le droit d'avoir une petite érablière. J'ai même le droit d'aller couper du bois pour m'assurer ma gestion. On s'est donné un cadre de gestion. Donc, de facto, je fais office de protection de la biodiversité. Je vous invite au lac Balmore à passer chez moi. Vous allez voir que c'est végétalisé. La maison qui est à 5 pieds disparaît en été. Donc, je pense j'incarne ce que peut être le respect de l'environnement. Ce qu'il faudrait comprendre aussi, les amis, là, mon intervention se situe dans un débat assez, un peu plus large. Il y a deux constats qu'on doit se faire collectivement. Première des choses, c'est qu'il y a l'effondrement de la biodiversité. Ça, on assiste actuellement à un effondrement de la biodiversité, puis on assiste actuellement à l'emballement climatique. Fait que mon intervention de vouloir acheter un terrain puis le protéger pour la tortue des bois, la tortue, c'est notre symbole ici. On parle de culture, nature. La tortue, on l'aime tellement qu'on l'a protégée puis on l'a mis, tu sais, pour le nom de notre village. On a la plus importante population de tortues connue en Amérique du Nord. Plusieurs propriétaires privés, André Bertion, à qui j'ai parlé tout à l'heure, fait une gestion intelligente de sa forêt puis protège les tortues qui sont là. On n'est pas contre le développement puis l'exploitation forestière, bien au contraire. L'humain habite un territoire puis il y a 5 espèces menacées. On prend la tortue, c'est une espèce parapluie, la mère-terre. Vous le voyez sur l'image là-bas, la mère-terre dans la tradition autochtone. Après ça, on a aussi le pigargue à tête blanche sur notre territoire. On a aussi l'oiseau... protégés. On a aussi beaucoup de salamandres, puis on a des chauves-souris à protéger. Fait que nous autres, quand on parle de paysage humanisé, il y a 5 plans d'intervention, 5 plans de conservation qui sont mis pour ces espèces menacées-là. On fait juste faire ce que le gouvernement veut faire, on les applique. Après ça, je vois dans le processus de consultation comme tel, le fait, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le maire, mais le fait que, premièrement, que le ministère de l'Environnement ne soit pas présent, Dieu sait pourquoi leur contrainte administrative, mais il aurait été essentiel qu'on aille la représentante du ministère de l'Environnement pour venir présenter ce qu'il y a dit, le paysage humanisé. Pas avoir un discours éteignoir qui vient mettre des bémols sur toutes les choses, puis il vient parler des contraintes. Moi, j'ai eu l'impression que la première heure a été une heure pour devoir dénigrer le processus de paysage humanisé. Après ça, lorsqu'on fait un processus de consultation, puis qu'on dit aujourd'hui, les 300 personnes avec les personnes qui sont hier, qui représente 10 % de la population, on vient dire qu'après avoir sondé 10 % de la population, on va prendre une décision, puis on va scraper le projet de paysage humanisé ou non. Ça, au niveau du processus démocratique, ça pose problème. Après ça, fait qu'on a actuellement une opportunité avec le paysage humanisé de participer à avoir des territoires incompatibles avec l'activité minière. C'est ça que c'est, Saint-Mathieu, culture-nature. Mais en faisant ça, on permet d'avoir l'absence d'éoliennes sur le territoire. On permet d'avoir l'absence de centrales de transport énergétique. Fait que pour nous autres, le paysage humanisé, avant tout, c'est un levier à court terme pour faire en sorte qu'on se protège. Sachez qu'en territoire privé, s'il y a une mine qui vient chez vous, qui dit qu'il veut avoir le sous-sol, il peut venir en territoire privé. En se donnant un statut de paysage humanisé, on se mettait une clé de protection pour se protéger. Fait que ça, c'est un des bénéfices qu'on avait.
Je vais vous laisser redescendre pour conclure rapidement, s'il vous plaît.
Fait que l'idée du paysage humanisé, c'est qu'on se donne le 300 000 piastres au lieu de scraper, puis scraper 4 ans de processus démocratique qui a été fait. Au lieu de scraper ça, on le prend 300 000 piastres, puis ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on veut comme développement. On établit un plan de conservation qui comprend tout le monde, comme ils ont fait à l'île Bizarre, comme ils ont fait la Motérégienne. On comprend tous les utilisateurs du territoire. La vision qu'André se disait tantôt au niveau de la gestion du territoire, ils font bien. On ne réinventera pas la roue. Les mesures existent déjà. On n'arrachera pas une couche par-dessus. On est, Saint-Mathieu, un territoire précieux. Fait que accepter le 300 000 piastres, c'est ensemble se dire, est-ce qu'on peut protéger tel espace, puis on se donne un plan de conservation. Fait que c'est une opportunité. Après 3 ans de consultation, si on dit, non, on n'est pas intéressé, on scrapera le processus, on a 300 000 piastres d'études disponibles. Fait que c'est clair qu'on est en faveur du paysage humanisé.
Merci, merci, monsieur. Merci. Merci pour votre position engagée. Oui. Oui.
Alors, bonjour à tous. Merci de nous permettre de nous exprimer.
Identifiez-vous, s'il vous plaît.
Mon nom est Bernard Gélina. Je suis résident à temps partiel encore du lac à la pêche depuis 9 ans. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association des propriétaires du lac à la pêche Et oui, je supporte la présentation qui a été faite par Mme Rivard précédemment. Premièrement, on a demandé ce matin ce qu'il y avait de spécial avec Saint-Mathieu-du-Parc. Moi, je vous soumets que ce qu'il y a de spécial à Saint-Mathieu-du-Parc, c'est vous. Les gens qui sont engagés, qui veulent en discuter. Je remarque ce matin qu'il y a une anxiété assez large sur les peurs générées par une potentielle surréglementation, alors qu'on a vu plus tard, lors d'une présentation ce matin et un peu plus tard, c'est-à-dire que la réglementation, ça ne changera pas. La réglementation, c'est le conseil municipal qui va en dicter. Et je décide aujourd'hui de faire confiance au conseil municipal et de dire qu'ils ne prendront pas des décisions qui sont moins favorables à ses citoyens, que ce soit dans le cadre d'un paysage humanisé ou dans le cadre où on abandonnerait le projet. Alors, je supporte la présentation de Diane, je supporte le projet de paysage humanisé. Je peux vous dire une chose, que ne pas savoir exactement ce que ça inclut, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. J'étais propriétaire et actionnaire d'entreprise, et lorsqu'on faisait un changement, ben on ne savait pas. Toutes les tenants et aboutissants avant de commencer, on décidait que ce type d'études-là était utile pour qu'on décide si on devait mettre quelque chose en place ou pas. Et la seule condition préalable au succès d'un changement, c'est l'engagement indéfectible des gens qui sont au pouvoir.
Merci, monsieur. Merci.
Bonjour, mon nom est Marcel Sauvageau, résident au Lac-en-Croix. Je veux revenir sur les subventions. Au début, là, quand que ce projet-là a vu le jour, on a demandé une subvention de 700 000 $. On a obtenu 300 000 $. Moi, la question que je me pose, actuellement, on a plus que la moitié de l'argent qu'on avait demandé au début pour faire le projet. Mettons qu'on demande une subvention pour faire un chemin, puis on reçoit la moitié de la subvention, on fait la moitié du chemin. Là, on demande 700 000, on a 300 000 pour faire le projet. Donc, moi, là, la question que je me pose, le sérieux de cet argent-là, comment il a été dépensé? Parce que si on fait un projet, si on demande 700 et on a 300 000, ça fait pareil. Donc, c'est quoi le sérieux? Il y a eu un projet, on pourrait en parler, je vais juste glisser un mot. Il y a eu une étude sur la firme Enclume, ça a coûté au-dessus de 200 000 $ sur les projets, le projet de, pas paysage humanisé, mais tourisme durable. Quand on regarde le résultat de ça, le constat de ça, bien, il n'y a rien de bon. Puis on le savait d'avance. On a dépensé 200 000 $. Ça pose une question, parce que aussi, il ne faut pas se faire de peur. Là. Le gouvernement, là, il arroche l'argent même. Okay? Tout à l'heure, l'argent se tarit. Bien, c'est nous autres qui est pognés avec ça, c'est nos taxes. Quand il arrive un promoteur qui attire des subventions puis un beau projet, mais après, là, si tu l'acceptes le projet et il n'y a plus d'argent, là, bien, ça nous incombe de notre poche.
En conclusion, s'il vous plaît.
Bien, en conclusion, je suis contre. Parce qu'on va dépenser notre argent, on va dépenser notre énergie pour absolument rien. Les règlements, là, il y en a. Là, 25 ans, si on aurait dit, là, juste, je vais finir là-dessus.
Oui.
Moi, ça fait longtemps qu'en environnement, je regarde aller ça. Puis c'est tous les mêmes acteurs, Mme Rivard ou Mme Bergeron, n'importe quel. Au début, là, 25 ans, là, quand ça a commencé, les fosses septiques, l'environnement, les bandes riveraines, là, ça sortit pour nous autres, c'est nouveau. Mais on a évolué là-dedans. Puis actuellement, là, la population est conscientisée. Là, on n'est pas si tout croche que ça. Là.
Merci, monsieur. Merci. Après. Merci.
Je pense que je vais prendre 2 minutes de votre temps pour me mettre quelque chose de bien au clair. Si le maudit projecteur peut se mettre à fonctionner, je pense qu'on doit clarifier l'histoire de la subvention. Là. On va mettre ça bien clair. J'ai le tableau, mais on ne voit rien parce qu'il fait trop noir. Je vais mettre ça bien au clair pour tout le monde pour qu'on passe à autre chose. Là. Je vais vous dire qu'est-ce. Alors, voici le 300 000 $ qui avait été octroyé en septembre 2025, juste avant les élections, à l'ancien conseil. La ventilation que vous voyez, c'est les 3 années financières du gouvernement du Québec où l'argent peut être utilisé. En 2025-26, donc pour l'exercice financier qui s'est terminé au 31 mars dernier, il y avait 46 000 $ de prévu. Comme on ne l'a pas utilisé, il a disparu. On n'en parle plus. Fait qu'il reste 254 000 $ qu'on pourrait utiliser. Pas ad vitam aeternam. On pourrait l'utiliser cette année, l'année financière 2026-2027. On est rendu au milieu de l'année financière, bon, c'est pas vrai, au tiers de l'année financière, mais avant que la municipalité mette de l'avant un plan de travail pour utiliser cet argent-là, si on décidait d'aller de l'avant, on va être rendu en septembre. On va être rendu au milieu de l'année financière. On a 130 000 $ de disponibles cette année. L'année prochaine, 124 000 $ pour un total de 254 000 $ qui devra absolument être dépensé avant le 31 mars 2028, c'est-à-dire dans un an et demi, 2 ans. Ce qui fait que la dernière chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que si la municipalité a décidé d'aller de l'avant avec le paysage humanisé, ces argents-là, pour les 2 dernières années financières, sont disponibles, mais ne sont pas garantis, parce qu'à chaque année, pour utiliser ces sommes-là, il faut dépenser un plan de travail détaillé de ce qu'on va faire avec. Puisqu'on est déjà rendu passé un an du début du projet où il ne s'est rien fait, on va devoir aller s'asseoir avec le ministère de l'Environnement, leur redéposer un nouveau plan de travail pour leur dire exactement comment on prévoit dépenser cet argent-là, puis pourquoi faire, puis à quel montant pour chacune des activités. Autrement dit, l'argent est disponible, mais on va devoir renégocier son utilisation, vous comprenez? Parce qu'elle avait été octroyée pour 3 ans, on ne peut pas faire les activités qui étaient prévues à la 2e année du plan d'action, là, du plan de travail déposé par l'ancien conseil. On est rendu presque au milieu de l'année avant qu'on puisse commencer à dépenser. Fait qu'il y a une renégociation à voir. J'ai discuté tout ça avec le directeur principal des paysages humanisés qui me garantit qu'il allait regarder ça avec beaucoup d'ouverture si on décidait d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas garanti.
Merci, M. Gilbert. Oui, M. Gélina. Bonjour tout le monde. Michel Gélina, Lac-Magnan. Aujourd'hui, je tiens à préciser parce que, écoutez, je suis dans les organisations, dans l'association GBMA et maintenant au regroupement depuis 2019 que je m'implique en environnement. Donc là-dessus, c'est clair que je travaille pas tous les jours parce que ma blonde me stoppe de temps en temps, là, mais pour la protection de l'environnement. Ça, c'est bien certain. Mais je pense que la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Il y a des subventions, oui, ça, c'est bien certain, mais ça a été bien mentionné que, écoutez, on a deux urbanistes qui travaillent à la municipalité, puis je pense que M. Saint-Arnaud ne chôme pas en rentrant le lundi matin. Si on a besoin de 2 autres, on n'est pas capable de faire respecter la réglementation actuelle. On n'a pas assez de monde. On nous répète tout le temps qu'on n'a pas d'effectifs, qu'on n'a pas d'effectifs. Tu sais, c'est ça la question, en fait. Puis l'autre volet, là, je paye des impôts. Moi. À tous les jours, au gouvernement du Québec, il y a 3 800 personnes qui rentrent au ministère de l'Environnement pour créer des lois, des règles, des règlements, créer des amendes. Il y a des surveillants, il y a des procédures. Name it! Au gouvernement du Canada, c'est 11 800 personnes qui rentrent à tous les jours pour créer des règles comme ça. C'est quoi notre mandat comme municipalité? Moi, mes taxes, là, je veux pas qu'ils servent pour devenir un autre ministère de l'Environnement. Je veux qu'ils servent à avoir des belles routes, à créer une communauté qui est belle, des événements accueillants, de l'embellissement de notre communauté, les fleurs, etc. C'est à ça que je veux qu'ils servent mes taxes. Sinon, je paye des taxes. Pourquoi? Pour dupliquer, quadrupler des services qu'il y a tout le temps, qui sont tout le temps plus lourds. Je n'ai pas parlé de la MRC, puis je n'ai pas parlé des bassins versants. Là. C'est aussi des organismes
qui s'occupe de l'environnement. Il faut réaliser ça. À un moment donné, ça va s'arrêter où? Où est-ce qu'on arrête et qu'on dit là, il y a des organismes qu'on a créés, il y a des gens responsables qui y travaillent. À tous les jours, il y a des gens en aide qui rentrent et qui font le possible pour créer des règles qui ont de l'allure. Mais là, on en rajoute une couche. Là. Le fameux règlement 2024-05, qui est très contraignant. Là. Puis celui-là, je peux vous en parler. Parce que là, on pense, moi, Michel Gélinas, j'ai rénové mon chalet en 2014. Okay? Au moment où j'ai rénové, il était, selon les anciennes normes, la bande riveraine de 10 mètres. 15 mètres, en fait, puisque j'étais incliné. J'ai respecté ça. Là. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, il se retrouve dans le 20 mètres. Bon, je pourrais dire, moi, mon projet, il est fait, je suis correct, je m'en fous bien, mais c'est pas ça. Mon voisin, qui est à 4 pieds, qui est dans la bande riveraine actuelle du 20 mètres, qui est à l'intérieur, là, il a une bâtisse, puis il veut la rénover, puis il veut que son patrimoine personnel il évolue, lui-ci. Il va laisser, comme disait M. Beaulieu tantôt, il y a des bâtisses, c'est devenu tellement difficile d'effectuer seulement des réparations que ces bâtisses-là perdent de la valeur. Quand c'est devenu tellement difficile que tout ce qui reste, c'est mettre le feu dedans, on a un problème. Là. On ne travaille pas pour le bien de la communauté. On travaille pour des gouvernements qui grossissent toujours plus et toujours plus. Fait que c'est à nous autres, aux municipalités, de dire, c'est assez, là. Nos élus municipaux, ils sont prêts à nous écouter, ils nous amènent en consultation. Fait que c'est à nous autres de dire, OK, là, le gouvernement, vous en faites assez pour nous autres, on va s'occuper de notre communauté, puis on va s'arranger pour avoir un beau milieu de vie.
En conclusion,
c'est ça l'idée.
En conclusion, s'il vous plaît.
Non, je ne suis pas pour paysage humanisé.
Merci d'avoir écouté. La conclusion a été très rapide, j'apprécie. C'est un bon timing.
Bonjour, mon nom est Claude Bourassa, au Lac-Souris. Moi, j'ai juste une question, bien, pas une question, mais quand je regarde le schéma que Mme Talbot a présenté, la première affaire, c'est la rédaction d'une démarche pour le paysage de Trostekin-Tripsi, la demande. La première étape, c'est ça. On est rendu, on parle de la dernière. Prenons la première. C'est la rédaction. La subvention que l'on a, c'est pour faire la rédaction. Donc, premièrement, commençons par ça. Après, c'est la séance d'approbation. Donc, après, là, c'est la consultation publique. Première affaire, c'est la question, c'est est-ce qu'on fait la démarche? Ça, c'est la subvention et pour faire le plan pour présenter une démarche. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, ça fait 20 ans, on n'a plus le droit de fumer dans les restaurants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la publicité, M. Suglakis, là, je ne sais pas trop qui, là, a parlé que, il y a 20 ans, on était pour fermer tous les restaurants. On était pour perdre je ne sais pas combien d'argent, que les restaurants étaient pour fermer, qu'il n'y aura plus rien qui va fonctionner. C'est la fin. Cette semaine, il a repassé, il dit, il y a juste les fous qui ne se trompent pas. Il dit, on fait de l'argent, les restaurants n'ont pas fermé, ça a fonctionné. Troisième chose, pour moi, le plan humanisé, c'est comme ISO. On fait ce qu'on dit. On fait ce qu'on écrit. ISO, là, c'était le même principe. Là, depuis plusieurs années, quand on a commencé avec ISO, là, tout le monde chialait contre ça, ça ne marcherait pas. Quand les usines ont commencé à implanter ISO, ils ont vendu des produits qui ne se vendaient pas, puis qu'on a fait ce qu'on disait. Même si ton produit n'est pas de qualité, j'ai dit, c'était pour faire ça, je le fais. Ce n'est pas nécessairement de dire que je fais de la très bonne qualité, mais ce que j'ai dit, c'est ça, puis je le fais. Donc, notre plan, mais qu'il soit fait, on va faire ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on allait couper les arbres, on n'a pas dit qu'on était pour faire ci, faire ça. C'est le principe que M. Bertrand tout à l'heure a dit. On fait ce qu'on a, on a des règlements, on a juste à les appliquer et c'est ça qu'on va faire. Merci. Donc, pour moi, c'est ça pourquoi que je suis pour, c'est que c'est la première chose à faire, c'est la démarche d'implanter quelque chose que, comme M. Bertrand a dit, il y a tellement de règlements, appliquons-les, puis après, on verra. C'est la deuxième étape, c'est l'approbation, puis on pourra dire non, mais on aura dépensé nos subventions pour faire quelque chose qui va nous servir, même si on n'est pas dans le paysage humanisé.
Merci beaucoup. On a déjà d'autres personnes qui veulent prendre la parole.
Juste une petite clarification tout à fait neutre sur ce qu'est la démarche. Si on décidait d'embarquer tous ensemble, pour déposer une demande de reconnaissance, il faut faire au ministère de l'Environnement, si vous me permettez l'expression, un pitch de vente. C'est-à-dire qu'il faut démontrer au ministère de l'Environnement qu'un paysage humanisé s'est justifié à Saint-Mathieu-du-Parc. Ça se fait comment? Ça se fait en répondant à trois questions. On veut protéger quoi? Pourquoi on veut protéger ça? Et où? Donc, la demande de reconnaissance doit avoir une indication de ce qui mérite d'être protégé et pourquoi, et elle doit proposer une délimitation du territoire que couvrirait le paysage humanisé. Et c'est à la réponse de ces trois questions-là que serviraient les fonds publics qui nous ont été donnés, là. Donc, c'est beaucoup de travail. On a un an et demi pour le faire. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent. Mais je veux juste que ça soit clair, que ce n'est pas une lettre là, qu'on envoie au ministère de l'Environnement. Dans le cas des collines montérégiennes, c'est un document de 100 pages. Juste pour prouver au ministre de l'Environnement que le paysage humanisé est bien, c'est le moyen approprié pour les collines montérégiennes. Merci. Juste une clarification.
Merci. Alors, on va passer à la question suivante, ou commentaire, position.
Commentaire. François Bruneau, Lac-Goulet. J'aimerais ça qu'on revienne dans une perspective historique de l'histoire de Saint-Mathieu, puis peut-être l'évolution en Occident aussi des choses. Bon, on ne partira pas à la Révolution tranquille, on va partir un peu plus tard. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Mathieu, les fosses septiques commençaient à être répandues, puis même imposées. Mais si vous aviez vu le nombre de récriminations qu'il y a eu pour ne pas avoir de fosses septiques, puis que ce n'était pas des affaires de la municipalité, puis des gouvernements, tout ça, où on mettait notre caca. Bien, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ça prend des fosses septiques, n'est-ce pas? On était fiers à Saint-Mathieu que c'était le compte de taxes le plus bas de la province. Mais pour parler comme m'avait dit le père de Laurier, ici, il dit, ici, à Saint-Mathieu, il y a juste deux jobs, c'était deux, il dit, le curé puis le secrétaire. Hein? Bon, c'est ça. Puis c'était vrai. Alors, les choses ont évolué, hein? Graduellement. Les fosses septiques, ça a été accepté. Le parc national est arrivé. Hein? Ça aussi, c'est assez... C'est une composante de Saint-Mathieu qui a fait beaucoup de... Les gens disaient, on se fait voler notre territoire de chasse. C'est vrai, on s'est fait voler du territoire par un parc national qui est devenu national. Moi, je pense que ça a été quelque chose de bien pour Saint-Mathieu. Après, sont arrivés des règlements pour les zones riveraines. Ça aussi, ça fait un peu mal. Dans un contexte plus mondial, maintenant, avec Trump puis Carney, actuellement, qu'est-ce qui arrive? Tous les grands projets de réduction des gaz à effet de serre, puis de préservation de la biodiversité ou des richesses naturelles sont abandonnés ou sont négligés ou sont édulcorés. Hein? Moi, je pense qu'on devrait aborder la possibilité de faire des études sur notre territoire comme c'est une vraie opportunité qu'on a de connaître un peu mieux notre territoire, puis qu'on devrait penser à nos enfants quand on fait ça, parce que c'est à long terme. Il faut penser à long terme. On n'a pas le choix. À mon avis, on devrait être un vrai bon village gaulois. Moi, je suis pour le paysage humanisé.
Merci beaucoup. À vous la parole.
Pierre Lambert, Lac-Mongrain. C'est un débat très émotionnel, il faut en convenir. Je pense qu'on est tous un peu concernés dans nos émotions par ce débat. Et j'aimerais apporter mon témoignage émotionnel. Mon arrière-grand-père a bâti la maison où j'habite aujourd'hui, au lac Mongrain, à une douzaine de mètres des berges. Je l'aurais personnellement aujourd'hui construit plus loin, plus haut. À l'époque, on faisait ce qu'on voulait. Quand j'étais tout petit, je me rappelle qu'effectivement, on allait faire nos besoins dans le pit à côté, à quelques mètres du lac. Ça n'existe plus, c'est plus permis, puis ça tombe sous le sens que c'est correct. Je n'ai pas peur, personnellement, des répercussions d'un projet de paysage humanisé. Est-ce que je l'ai dit, je suis pour le paysage humanisé. Pour la simple raison que, si j'ai bien compris, c'est la municipalité qui est le maître d'œuvre de nos politiques, de nos règlements. Et que quoi qu'il arrive dans le futur, c'est toujours la municipalité qui va me dire « j'ai le droit de construire ça ou j'ai pas le droit ». Paysage humanisé ou pas. Et dans 5 ans, si on n'a pas de paysage humanisé, la municipalité va encore pouvoir me dire « non, tu construiras pas ça ». « Non, tu feras pas ci. Non, tu feras pas ça. » Ou « oui, ça c'est permis ». Donc, ça ne me fait pas peur. Pour ce qui est de la valeur de ma propriété, est-ce que ça diminuera sa valeur? Est-ce que ça l'augmentera? Je n'en sais rien, pas plus que qui que ce soit ici. La valeur de nos propriétés dépend de tellement d'autres facteurs. Dans 5 ans, dans 10 ans, le parc immobilier de tout le territoire peut tomber à plat, comme il peut être démesurément augmenté. On n'en sait absolument rien. Et quoi qu'il arrive, même si la valeur de nos propriétés baissait, je pense qu'on aura toujours un acheteur qui vienne de Montréal ou d'ailleurs pour payer le prix qu'on demande pour nos propriétés dans un si beau milieu. J'espère être enterré à Saint-Mathieu un jour, dans ce beau milieu, et je suis pour le paysage humanisé.
Merci, monsieur. Merci. Madame Laure.
Bonjour, je suis Martine Laure, qui est propriétaire depuis 30 ans au Lac-Souris. Donc, moi, aujourd'hui, je questionne une chose. Moi, je mets en doute la neutralité de cette consultation publique. Quand on parle d'un seuil de participation, on veut décider de l'avenir de notre municipalité avec un vote qui pourrait représenter que 5 % de la population. Pourquoi refuser d'élargir les modes de consultation? Pourquoi précipiter le vote? Il est impératif d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de recueillir l'ensemble de leur opinion. Deuxièmement, l'absence du ministère. Ce manque de transparence est d'autant plus critique que le ministère est absent, nous laissant sans arbitrage, sans expertise technique officielle, ni soutien gouvernemental nécessaire pendant les échanges pour se faire une idée. Troisièmement, un calendrier illogique. Demander aux gens de voter aujourd'hui avant même que les citoyens puissent lire les mémoires déposées, va à l'encontre des règles de l'art de la participation publique au Québec. Les arguments et les nuances doivent être analysés en amont par les citoyens. Et quatrièmement, un manque flagrant de neutralité. C'est absolument anormal de confier l'animation d'une consultation publique à des opposants déclaré plutôt qu'à un tiers neutre. Les politiques recommandées en matière de consultation recommandent que le conseil municipal agisse à titre d'observateur. C'est une faute lourde qui détruit toute objectivité de la démarche. Donc, et aussi de refuser et de retourner la subvention de 300 000 $ même s'il n'existe pas de liste officielle au ministère, considérant le rejet comme un manque de rigueur de la gestion des fonds de développement durable pour le futur. Donc, en résumé, le temps n'est plus au discours polarisant, à la propagande sur les réseaux sociaux, au déni climatique, à la désinformation ou la peur de perdre le contrôle de notre territoire. Nous refusons que ces approches divisent la population alors que la priorité reste à bâtir un consensus solide pour l'avenir de Saint-Mathieu-des-Parcs tout en préservant notre environnement et notre fierté. Vous devez comprendre que je suis pour le paysage humanisé.
Merci, Mme Laure. Avant de vous céder
chacun
la parole,
a droit à son opinion, Madame Martine Laure, comme n'importe qui d'autre. Alors, j'argumenterai certainement pas sur l'opinion de Madame Laure, sur moi, sur le conseil, sur d'autres choses. Mais je vais quand même préciser un fait important. Le document de référence qui vous a été présenté aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, il y a deux versions, dont la finale qui a été révisée par le ministère de l'Environnement. Okay, ils nous ont fait leurs commentaires, on les a tous intégrés. Deuxièmement, ils ont été officiellement invités par écrit à participer à la rencontre aujourd'hui et ils ont refusé de le faire pour deux raisons. La première, c'est que ils ont des restrictions budgétaires qui les empêchent de voyager encore une fois. Et la deuxième, M. Francis Bouchard, le directeur principal responsable des paysages humanisés au Québec pour le ministère de l'Environnement, m'a dit, vous savez, M. Gilbert, on s'est déplacé l'année dernière, vous vous souvenez, la rencontre d'information le 1er avril, on s'est déplacé, on a dit tout ce qu'on avait à dire cette journée-là, et si vous voulez repartager le deck, la présentation avec vos citoyens, il n'y a pas de problème. Et cette présentation-là est disponible sur notre site web. Merci.
Juste pour... attendez. Attendez.
Non, bien, j'étais encore là.
Attendez.
Je vais finir, oui.
S'il vous plaît, un peu d'ordre. Je vais vous permettre très, très brièvement d'intervenir pour compléter votre tour de piste.
Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une mère et je lui ai proposé de diffuser aujourd'hui une présentation vidéo du ministère, ce que vous avez catégoriquement refusé. Donc, présentement, on aurait peut-être entendu un discours différent.
Merci, merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine intervention, M. Bertrand.
Mais en fait, ce n'est pas directement sur paysage humanisé, c'est la chronologie des éléments qu'on a besoin pour réfléchir. Si on s'en va vers un plan de conservation, qu'il soit à l'intérieur d'un paysage humanisé ou pas, on a l'intention de faire de quoi, là, éventuellement. Le bout qui nous manque dans l'équation, c'est qu'est-ce qu'on veut en termes de développement. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que si on ne fixe pas ce qu'on veut comme développement, comment on va pouvoir fixer ce qu'on veut protéger en fonction d'un développement dont on ne sait pas ce qu'on veut faire? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et M. Gilbert, quand vous dites, cet automne, on va regarder les services offerts par la municipalité, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire, ça aussi. Il faut réfléchir sur quel type de développement. C'est inévitable, là. Je veux dire, les finances, la municipalité, la fiscalité, tout ça, il faut réfléchir comment on s'en va, sinon il y a un cul-de-sac financier, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis quand on aura décidé ça, après ça, on regardera les impacts, les enjeux possibles de cette réflexion-là. Moi, je pense que c'est fondamental. Il faut faire ça, là.
Okay. Merci. Merci beaucoup.
Le conseil municipal actuel est aussi d'accord avec vous sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de se donner des orientations de développement durable à Saint-Mathieu-du-Parc. On les a annoncées comme promesses électorales lors des dernières élections. On avait prévu faire deux nouvelles consultations cet automne. Une sur les services rendus qu'on voulait faire en septembre et une sur le développement durable de la municipalité qu'on voulait faire en novembre. Là, on est revenu un petit peu les deux pieds sur terre. Là. La job de maire, là, c'est à temps plein de ce temps-ci. J'ai bien d'autres choses à m'occuper que les consultations. Alors, le conseil a décidé de retarder la consultation sur le développement durable de la municipalité au printemps 2027, et elle va avoir lieu au printemps 2027.
Merci. Alors, la parole est à vous.
OK. Moi, c'est Laurier Julina de Saint-Mathieu. Je suis un autochtone de Saint-Mathieu. Il n'en reste pas bien, bien des autochtones ici à Saint-Mathieu. OK? Fait que, moi, c'est pour le préfet, là. C'est de la bureaucratie par-dessus la bureaucratie. Puis tout le monde en salle, ça disait, au Québec, il y a bien trop de bureaucratie. Puis là, on va en créer encore. On a un problème, là. Puis quand j'entends parler du monde dans la salle, il y a juste 10 %. Ça veut dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui est élu parce qu'il n'y a pas 100 % des votes. Fait que là, on a un problème, là. Tu sais? On va arrêter que j'appelle juste 10 %, puis un 5 %, puis... Le monde sont titres, ils vont voter, puis c'est correct. S'il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils ne voient pas leurs affaires, ce n'est pas nos problèmes. Merci beaucoup.
Merci, merci. C'est un peu plate, vous allez devoir vous représenter, mais c'est bon, correct. Allez-y.
Pas de problème. Mario-Régis du Lac Brûlé depuis maintenant 14 ans. En quatre points. D'abord, merci pour le document et la consultation. Il n'y a personne qui peut prétendre la neutralité, mais je pense qu'il y avait un exercice et on était capable de voir les petites choses en passant, là, mais c'était ligne, tant qu'à moi. Ma compréhension, c'est je trouve que j'ai un malaise dans la conversation, là, dans le sens où j'ai l'impression qu'on cherche... En fait, je ne distingue pas, j'arrive difficilement à distinguer le processus du programme, au sens où... Je trouvais l'intervention de M. Bertrand tout à l'heure tout à fait pertinente. On a besoin d'avoir une vision de c'est quoi l'état actuel au niveau de l'environnement et notamment de l'adaptation au changement climatique. On l'a vécu au cours des trois dernières années. Là. Il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des inondations, l'été passé, on a failli manquer d'eau. Même les gens qui avaient des puits ont dû faire attention. Il y a des menaces. Que faut-il faire? C'est quoi la vision qu'on se donne comme communauté, pour dire, bien, par rapport à ce qui se passe, voici ce à quoi on aspire et quels sont donc les moyens qu'on doit se donner pour y arriver. Et là, présentement, je n'ai pas ce portrait-là d'ensemble. Il y a des gens ici qui ont plus avancé que moi là-dessus, puis c'est bien correct, là. Mais est-ce que l'outil, le véhicule qu'on me propose est le meilleur, le plus adapté pour faire le chemin qu'on veut faire? J'ai de la misère à répondre à ça. Tout ce que j'entends, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients, puis c'est dans la nuance. Puis là, il y a une petite polarisation émotive qu'on peut comprendre. mais il y a des enjeux réels. Fait que pour moi, ce qui serait hyper important, c'est que la municipalité décide de se doter, puis là j'entends le développement durable, pour moi c'est un véritable comité de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que le processus, avec les sous qu'on a obtenus, nous permettrait d'avancer là-dessus? Là, je comprends que peut-être que oui, puis peut-être que non. C'est difficile pour moi de voter là-dessus, là. Mais moi, je pense qu'à terme, il faut qu'on ait cette vision-là. Paysage humanisé ou pas, il nous le faut. Puis, dans X temps, être capable de dire, OK, est-ce que ce véhicule-là, c'est le bon? Est-ce qu'il nous permet d'aller là ou est-ce qu'il est trop contraignant parce qu'on a déjà suffisamment d'outils qui sont présentés dans le document pour y parvenir?
Merci. Voilà. Merci. Oui, c'est à vous.
Bonjour, Marie-Ève qui est ici. J'habite Saint-Mathieu, comme je disais, depuis 2002, donc quand même. J'ai choisi Saint-Mathieu pour m'établir pour mon amour pour la nature, effectivement, mais ça, la grosseur de l'endroit aussi, il y a tout le côté humain et tout ça. Je ne me suis jamais impliquée au niveau municipal. On m'a abordé au départ pour m'impliquer avec justement le projet de paysage humanisé, l'air protégé, tourisme durable, on te le quitte. Il y avait un comité consultatif qui a été créé. Mais moi, l'idée de paysage humanisé, pour moi, c'était comme, on va s'asseoir autour de la table, tout le monde ensemble, avec différentes opinions. Alentour de nous, là, il y avait des gens de la production forestière, tu avais des entrepreneurs, tu avais les anciens conseillers municipaux. Moi, j'arrivais avec mon background comme biologiste. Il y avait des gens qui étaient prêts. On a donné de notre temps, tout simplement. Tout simplement, pour en discuter, justement. C'est quoi notre vision qu'on veut pour Saint-Mathieu? C'est quoi les règles est-ce qu'il y a des règles qu'on veut mettre en place supplémentaires ou plutôt est-ce que justement on veut venir consolider des choses qu'on fait bien déjà? Donc, si on dit que notre eau est bonne, on a des belles politiques au niveau de la gestion de nos lacs parce qu'on a une responsabilité à ce niveau-là, on a plusieurs lacs sur notre territoire. Si au niveau de la foresterie, les producteurs de bois, justement, ils font des choses bien. Si les gens ils veulent un rythme de vie qui est plus à échelle humaine, qu'on est près de la nature, puis que le kit, bien, OK, tu sais, est-ce que c'est ça qu'on veut continuer à long terme? Tu sais, bien, tabarouette, t'sais, moi, ce véhicule-là, je le voyais que, justement, c'était une opportunité de discuter tout le monde ensemble, puis de se doter d'une vision, de mettre ça en commun, qu'on ait la chance de se parler, de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, puis de dire comme justement, je vois vraiment que c'est un outil pour la voix de la population. On a la chance de parler, de s'écouter, de que c'est ça, que ben moi je suis pour de continuer. Tout
merci,
simplement.
On avait compris.
Merci.
Merci. Monsieur McManus.
Bonjour, Claude McManus du Lac Magnan. Ça fait plusieurs années que je suis ici, je suis un peu connu parce que j'étais maire, puis je le dis parce que mes arguments sont basés un petit peu là-dessus. J'étais un petit peu comme madame qui m'a précédé. Moi, j'étais sur le comité aussi, justement, pour le paysage humanisé. Puis, je vais vous dire qu'au début, j'étais bien enchanté de ça, puis je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Mais plus ça allait, plus j'avais des questions. La première que j'ai eue, c'est de dire... Depuis 2002, ça existe, là, le programme paysage humanisé. Deux municipalités qui ont embarqué là-dedans. Moi, j'ai été dans le monde municipal plusieurs années. Puis là, je me dis, comment ça se fait? D'habitude, quand c'est un programme qui est payant, tout le monde embarque là-dedans, puis on se bat les municipalités pour l'avoir. Là, deux municipalités sur 1000 cuques municipalités. Posons-nous la question. C'est-tu si payant que ça? On a-tu vraiment besoin de ça? Deuxièmement, l'argent. On parle tout du 300 000. Tout le monde pense que ça coûte 300 000. Mais non, il y a eu une demande de fait pour une subvention de 700 000. Ils donnent 300 000. Où est-ce qu'on prend 400 000 qui manque? Si la subvention qui était demandée, ça prenait ça, j'imagine, si on l'a fait un demande. Ou bien non, c'est faux qu'on n'a pas fait une bonne évaluation. Mais il manque 400 000. 400 000, on va le prendre où? Je pense qu'il faut qu'on commence à penser qu'on a une limite de payer à Saint-Mathieu. Je pense que les taxes sont assez élevées. Puis on n'a pas tout fait. On se pose des questions. On dit, on va faire quoi? Je pense qu'on sait quoi faire. Il y a une affaire de ceux qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on garde nos ponceaux. Les ponceaux, ça fait depuis au moins 10-15 ans qu'on en parle, qu'ils ne sont pas aptes. Puis là, on a des inondations. Hein? Là, on va payer ça comment? Avec le restant du... on pourrait prendre les 400 000 pour faire ça, qu'on va payer pour faire une étude. N'oubliez pas ça, parce qu'après, il y a d'autres coûts qui vont venir. Ça, je suis sûr de ça. Puis là, je vais vous donner un exemple qui est rapide. Il y a quelques années, il y a eu un débat pareil comme ça, un débat où les gens étaient 50 % pour, donc 50 % contre. C'était l'épandage des moustiques, pour les moustiques. Hein? On se rappelle de ça. Mais là, on a arrêté le débat, à un moment donné, où j'étais conseiller dans ce temps-là. J'avais posé une question. Nous autres, le conseil, là, on a-tu le moyen de payer 300 000 pour se faire... Puis là, dans ce temps-là, c'était 300 000, mais aujourd'hui, ça a rendu beaucoup plus. Fait que là, on a-tu le moyen? On a tout dit sur la table du conseil. Bien là, on n'a pas de moyen. Pourquoi qu'on continue là-dedans? Pourquoi qu'on continue le débat puis finir? Bien, on a arrêté. Puis c'était fini, on n'a pas eu. Mais là, c'était pour l'environnement. N'oubliez pas qu'il y avait... Ça, c'était pour l'environnement. Là, on semble être contre l'environnement. On n'est pas contre l'environnement. On dit qu'on est contre un projet qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver. Fait que moi, c'est pour ça que je suis contre là, présentement du projet.
Merci. 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 À vous la parole. Identifiez-vous, s'il vous plaît.
Bonjour, moi, c'est Luc Champagne. Je suis propriétaire de grandes superficies boisées. Je suis propriétaire de Maison Saint-Mathieu, chalet. J'ai une entreprise, la Syrie, la plupart du monde me connaissent. Je suis pas habitué de parler à la veuve, vous allez m'excuser. Moi, je trouve que, tu sais, la grandeur de superficie que j'ai moi-même, je trouve qu'une personne qui a juste un petit emplacement, les normes pour eux autres sont vraiment graves. Mais moi, qui n'ai beaucoup plus grand, dans ma tête, je vais chercher pour m'emporter, comme certains. Moi, ça me traumatise pas, mais, tu sais, mettons, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants que mon garçon va prendre la succession, probablement. Je voudrais que ça soit bien. On a beaucoup de réglementations, vu que je suis entrepreneur forestier. On est limité partout, on est surveillé partout. Aussitôt qu'il y a une petite règle qui déroge, j'ai déjà fait un abattage d'arbres au lac Trudel. Il y a un arbre qui est tombé sur la glace. Là, tout de suite, la municipalité est venue me voir. Là, Luc, il faut t'enlèves les branches. Oui, je vais les enlever, pas de problème. Mais les arbres qui tombent tout seuls, ça, c'était pas grave. Puis au lac Trudel, ils vont en tomber. D'autres sont tous morts. Mais moi, c'était très, très grave parce que c'était mon gagne-pain. Fait que moi, je suis... Non, 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 je veux pas ça. Ça va coûter trop dispendieux pour faire ça. C'est à mon opinion.
Merci, M. Champagne. Alors, il est 2h15. On a d'autres intervenants. Allez-y.
Bonjour. Guy Marcotte du lac Jackson. Moi, je vais sortir des émotions. Oui, je suis un gars bien, bien pragmatique. Quand je regarde un projet, je regarde si on l'avait fait à 20, qu'est-ce que ça aurait fait aujourd'hui? Parce que quand on regarde les impacts, il y a des gens ici qui sont intervenus avec des super arguments. Mais l'avenir, on ne la connaît pas. Fait que moi, je possédais, parce que j'ai fait un développement au lac Jackson qui va vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée, qui est 2 % du territoire de la municipalité. 2 % L'ancienne urbaniste Patricia Cormier, elle m'a demandé un jour, « Monsieur Marcotte, pourriez-vous nous faire une étude de l'impact au sol de vos infrastructures au développement du lac Jackson? » J'ai tout calculé ça, largeur des routes. Parce que l'impact au sol, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais dans la nature. Là. On parle d'une entrée de cour, une maison construite, tout ça. 10 % d'impact au sol de mon développement. OK? Je suis 2 % du territoire. Mon territoire est impacté à 10 % de la biodiversité. Je considère que j'ai pas nui à la biodiversité. S'il y en a qui trouvent que j'ai nui, on prend à discuter. Je suis technicien forestier de profession, en passant, hein, il y a bien des choses que je connais dans la nature, puis l'environnement, puis tout ce que les gens ont parlé ici, là, je les ai vécues en tant que professionnel. Là. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, pragmatiquement parlant, mon petit 2 % de territoire, qu'aujourd'hui, il y a un règlement qui l'empêche de lotir, mais là, il est fait. Si on avait eu le paysage humanisé il y a 20 ans, qu'on avait approuvé ça, il n'y aura pas eu de plan de lotissement au lac Jackson, puis il n'y aura pas 300 000 $ de taxes qui arriveraient à la municipalité. C'est ça l'impact d'une décision que quand on n'est pas capable de voir en avant, économiquement, moi je vous parle juste d'économie, mais j'ai fait beaucoup attention à l'environnement. Il y a 10 % du territoire là-bas qui était pour la protection de la tortue des bois. Il y a un pourcentage du territoire qui est allé pour les espaces verts pour la municipalité. Plus, on est rendu des millions de taxes que la municipalité a eues suite à ce développement-là. Mais moi, dans ma vie, je me suis toujours senti criminel. Je suis un gars qui bûchait du bois. Je suis un gars qui fait du développement. Mais quand je regarde l'impact que j'ai sur ma municipalité, question économique, qu'elle peut prendre cet argent-là pour offrir des services aux gens. Je me dis, c'est une maudite chance que le paysage humanisé n'est pas arrivé il y a 20 ans, parce que là, j'ai des règlements qui empêchent le lotissement.
Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît.
C'est ça. Alors, vous avez compris que je suis contre, parce qu'on ne connaît pas assez l'avenir pour s'embarquer d'un programme comme ça.
Merci.
Merci.
Merci. Oui, madame.
Bonjour. Alors, je m'appelle encore Martine Champagne. Oui, je suis encore citoyenne de Saint-Mathieu. Je suis encore forestière dans les entreprises qu'on a. Suite à ce que mon prédécesseur a dit, je veux revenir à une dimension plus humaine, si vous me permettez. Alors, j'aimerais, tantôt vous avez pris le temps, monsieur le Président, de souligner les efforts que certaines personnes ont fait jusqu'à date dans votre comité. Mais j'aimerais aussi souligner la part importante que les gens avant ont fait aussi. C'est très important, puis ceux qui vont le faire après. Alors, tous ces gens-là, bénévolement ou pas, vont avoir concrétisé une part humaine de Saint-Mathieu-du-Parc qui est pour moi très importante. Maintenant, vous savez comment mon implication au niveau environnemental est importante à Saint-Mathieu. J'y ai donné tout mon cœur, autant au niveau du comité dans lequel j'y étais avec Claude, avec André aussi, avec Diane. Je me suis impliquée parce que je trouvais que c'était important qu'une part de femme, de deux, quelqu'un qui travaille avec l'environnement, mais quelqu'un aussi qui a la réalité économique à voir. Donc, je suis encore présente à la Maison de la Tradition, vous avez sûrement remarqué que je suis pas, j'ai applaudi à aucune intervention, ni non plus, je ne prononcerai pas aujourd'hui. Je prendrai le temps de lire, parce que j'ai trouvé qu'il y avait de très bons éléments dans toutes les interventions qu'il y a eu précédemment. Je vais prendre le temps de voir et d'analyser comment je me distinguerais au niveau d'un vote, je ne le prononcerai pas aujourd'hui. Merci, alors, madame. Ceci dit que merci de votre implication aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient là hier, parce que tous les citoyens ont donné quand même leur temps aujourd'hui pour le faire. Merci.
Merci. Alors, avant de passer aux prochaines étapes, je demande au public s'il y a d'autres interventions, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, même quelqu'un qui est déjà venu au micro, si on a passé le premier tour. Non? OK, allez-y. Si vous avez quelque chose de nouveau. Très bon. Oui.
Bonjour, bonjour. Marc-André Valiquette, je suis biologiste de formation et j'habite à 500 mètres par là-bas, si ça vous tente de venir faire un tour. Vous m'entendez bien, oui?
Oui.
Merci beaucoup pour la présentation, Mme Chabot, ce matin. Ça a permis de mettre quelque chose en perspective, entre autres, c'est qu'il faut dissocier les règlements municipaux qui ont été adoptés ou modifiés en 2023 et 2025.
du projet de paysage humanisé. Il y a des gens qui me semblent très en colère contre la réglementation municipale, mais ça, ce n'est pas le projet de paysage humanisé. Et encore là, sur quoi on se penche aujourd'hui? Est-ce qu'on continue le processus? On ne tranche pas sur est-ce qu'on veut ou pas un paysage humanisé. Est-ce qu'on continue le processus? C'est important d'y réfléchir. Ce matin, par contre, j'aurais aimé ça qu'on ait des exemples qui proviennent d'ailleurs qu'au Québec, comme c'est très, très limité. Puis, entre autres, en Europe, il y a des centaines de paysages humanisés. Parmi les exemples les plus fréquents, petite notion d'écologie vite, vite, on va faire paître depuis des siècles les animaux en altitude. Ça a créé un écosystème de pâturage qui n'existe pas, c'était de la forêt avant. Pour éviter que ces pâturages-là deviennent des villages pour le tourisme, deviennent impactés d'une manière quelconque, on voulait garder le paysage qui avait été humanisé, modifié par l'intervention humaine. On a créé ce type d'air protégé-là. Ici, à Saint-Mathieu-du-Parc, quand on lève les yeux, qu'est-ce qu'on voit? C'est des collines boisées. Si on veut que ça reste des collines boisées ad vitam aeternam, puis que ce soit ça la principale occupation du sol, un paysage humanisé, ça peut servir à ça. Il ne faut pas le voir comme d'éventuelles contraintes. C'est nous qui décidons des modalités du paysage. Ça va être quoi les modalités de l'air protégé? C'est nous ensemble, les élus, qui vont le faire. Mais si on veut protéger le fait que quand on lève les yeux, puis nos collines, c'est des grands pins, des érables, des hêtres, des bouleaux jaunes et non pas des toitures, bien, ça peut servir à ça. Fait que protéger le paysage en tant que tel. Là, on est vraiment dans le micro, les bandes riveraines, les fossés. Pensons à l'ensemble du territoire. Si ce qu'on veut regarder, c'est la beauté actuelle des choses pour conserver, oui, notre tranquillité, mais également l'esthétisme des lieux, bien, on a un excellent outil. Est-ce que le paysage humanisé va aboutir ou pas? Je ne le sais pas. Mais est-ce qu'on doit mettre le pied dans l'engrenage du processus? Assurément, on n'a rien à perdre d'avoir une meilleure connaissance de notre territoire en milieu privé.
Merci beaucoup.
Je voudrais juste apporter une petite précision, encore une fois, factuelle, pour qu'on ait une discussion éclairée, là. Quand une municipalité décide d'établir un paysage humanisé, on ne peut pas le faire par la force. Le ministère de l'Environnement, non plus que la municipalité, on est capable de dire à un groupe de citoyens propriétaires de terres privées, voici à partir de maintenant comment ça va se passer chez vous. C'est pas pour rien que le processus d'un paysage humanisé est mis dans les mains d'une municipalité et que ça doit être supporté par la population suite à une consultation. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens embarquent. Parce que il n'y a personne qui peut imposer ça à personne. Fait qu'il faut comprendre que si un propriétaire d'un lot boisé, par exemple, je donne ça comme exemple, dit « moi, j'embarque pas dans le paysage humanisé, puis nous, on voudrait que ça soit dans la délimitation du paysage », ce propriétaire-là a le droit de refuser. On a le droit de, on a le droit d'essayer de l'imposer par la persuasion ou d'autres moyens. Puis lui, il a le droit de nous traîner en cours. Fait que c'est pas pour rien là, que le processus est dans les mains de la municipalité puis qu'il vient pas de Québec. C'est parce qu'il faut que ça vienne d'ici. Et la délimitation de ce que pourrait représenter en termes de surface un paysage humanisé doit être volontaire. Il faut que les propriétaires embarquent. Donc, s'il y en a la moitié qui embarque, puis il y en a la moitié qui n'embarque pas, bien, vous allez avoir un paysage humanisé, par exemple, vous allez avoir un paysage humanisé qui va ressembler à un échiquier, là. Ici, c'est paysage humanisé, là, ça ne l'est pas, là, ça l'est. Là, comprenez ce que je veux dire? Fait que, moi, j'ai toujours dit qu'on avait assez d'informations pour prendre une décision sur ce qu'on veut. Puis la question qu'on pose aujourd'hui, c'est pas êtes-vous pour ou contre le paysage humanisé? On vous demande, voulez-vous poursuivre la démarche? Mais il faut comprendre à quoi ça peut nous amener. Alors, il faut garder ça en tête, là. Québec ne va pas débarquer ici avec ses gros sabots, puis il va dire il y a 15 km carrés qui devient un paysage humanisé à Saint-Mathieu-du-Parc, là. C'est nous qui vont le décider. Puis si les propriétaires, tant de petits, les riverains, les propriétaires de l'eau de bois n'embarquent pas, il n'y en aura pas.
Merci.
Merci.
Oui, madame.
Bonjour, José Lavoie, Lac-Magnan. Moi, j'aimerais ajouter un point. Il y en a qui ont dit que la démarche aujourd'hui n'était pas légitime parce qu'on représente X % moins de 10 % de la population de Saint-Mathieu. J'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont été refusés? Non. Donc, tout le monde a été invité. Tous ceux qui voulaient venir ont pu venir. Tout le monde a été invité. On a eu l'information, là. Y en a-t-il qui n'ont pas été invités?
Attention.
Ah, ben là, je suis tellement désolée que votre voisine soit à l'hôpital, madame, mais c'est pas qu'on l'a refusé. Tout le monde était invité.
Hey, on arrête ça là. Viendrez au micro, madame. Viendrez au micro.
Ouais, il y a de la place. Écoutez, moi, je veux juste défendre le fait que je suis très contente, justement, que la municipalité fasse une journée d'information et de consultation, comme ils avaient promis lors de leurs élections. C'était le point central, même, de leur programme électoral, je crois, au départ. Ou, en tout cas, c'était la bougie d'allumage qui a fait que certains se sont plus impliqués au niveau municipal, contrairement à ce qu'ils avaient pensé. Mais moi, je trouve que la journée d'aujourd'hui, elle est très légitime. Tout le monde a été invité, personne n'a été refusé. Donc, on ne peut pas dire que les gens qui sont ici, puis qui expriment leur opinion, puis qui vont voter tout à l'heure, que ce ne sera pas légitime, qu'est-ce qui va être décidé en bout de ligne.
Merci,
ça veut-tu dire qu'on va le faire ou non? On verra. C'est sûr que ça amène, je le souligne, la consultation n'est pas finie. Les démarches de voir qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, c'est pas terminé. C'est certain, on veut tous protéger l'environnement. Moi, la première, on vit à Saint-Mathieu parce qu'on aime l'environnement, sinon on serait allé en ville. Par contre, comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est au niveau du développement des différentes consultations et des prochains projets.
Merci.
Mais moi, je trouve que la journée d'aujourd'hui, elle est légitime. Puis ceux qui disent qu'on n'est pas légitime, ben c'est une insulte à la démocratie.
Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur.
Justin Bernard du Lac-Souris. Je ne redirai pas ce qui a été dit. Il a été très bien dit. J'ai le goût de nous féliciter collectivement. Il y a eu deux assemblées. Ça dénote une chose, d'abord, la qualité de l'organisation qui a été capable de servir et de bord. Il y a plus de monde que la salle peut contenir. Vous avez organisé une deuxième assemblée hier. C'est tout à votre honneur. J'aimerais féliciter les gens qui ont déposé des mémoires. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça a été extrêmement intéressant et instructif. Et je ne donnerai pas mon opinion sur pour et contre. J'ai une question à poser à M. le maire, qui est la personne élue. Advenant le décomptage des comptes, des pour et des contre, 50-50, que faites-vous?
Hey, ça, c'est ce qu'on appelle une belle question. Là, vous êtes en train de me parler du pire des scénarios possibles et imaginables.
À me démanger.
C'est celui qui m'empêche de dormir, ça, monsieur. Non, pour être plus sérieux, d'abord, encore là, une clarification. Il a toujours été dit, sans l'ombre d'un doute, que le vote d'aujourd'hui, c'était significatif, mais non pas décisif. OK? On va additionner le vote d'aujourd'hui à celui d'hier, et on va prendre ça comme point d'information au conseil pour prendre une décision. En bout de ligne, c'est le conseil qui va décider si on va de l'avant ou pas. Hein? Ça nous appartient. Vous nous avez élus de prendre une décision, vous allez voir qu'on est capable de la prendre. Mais on ramasse toute l'information qu'on peut pour être capable de prendre la meilleure décision, la décision la plus éclairée, puis surtout basée de où on pense que la majorité loge, où la majorité des citoyens sont. On a dit à plusieurs reprises en séance publique que les réunions d'hier puis d'aujourd'hui seraient peut-être suivies d'un sondage. Un sondage électronique qui serait pas un sondage avec 50 questions, là, une question. La même que vous allez répondre tantôt. Ça serait une infolette spéciale, tous les moyens, les plateformes disponibles. On va donner accès à toute l'information, le document de référence, la présentation d'aujourd'hui, les mémoires, les comptes rendus de meeting, tout. Puis en bas, on va demander aux gens, si vous voulez voter pour ou contre la poursuite de la démarche, cliquez ici. Ils vont devoir s'identifier comme citoyens, puis ils vont avoir une question à répondre. Êtes-vous pour ou contre? Point. On n'a jamais mis ça de côté. On attendait de finaliser nos consultations en personne pour évaluer si c'était nécessaire. Je vais vous dire honnêtement, là, au conseil, on se disait, si on a 90 % du monde qui sont d'un côté puis 10 % de l'autre, puis qu'on a 200 personnes sur 1600 résidents permanents plus un autre 1500 saisonniers, c'est très légitime. Puis comme échantillon de la population, ça serait solide en masse pour prendre une décision. OK? Je vous répète, le nombre de personnes qui étaient ici aujourd'hui puis hier, si on appliquait la même proportion à Trois-Rivières, on aurait besoin d'avoir 18 à 20 000 personnes réunies dans un, dans un aréna pour représenter la même proportion de la population. Là. Tout ça pour dire, finalement, répondre à votre question, si jamais on avait 50-50, on s'est toujours dit, là, un sondage, là, c'est comme, on n'a comme pas le choix. Là. C'est-à-dire, comprenez-vous, plus le vote est serré, plus un sondage pour élargir l'échantillonnage est nécessaire, dans un sens comme dans l'autre, là, pour ou contre. Si on est du 52-48, là, on ne va pas prendre notre décision juste sur une réunion de consultation aujourd'hui, mais si on a, puis on ne l'aura pas, là, mais je vous donne ça pour donner les deux côtés du spectre, là. Si on avait 90%, disons, contre, puis 10% pour, deux jours de fil, 200 personnes sur 1600 résidents permanents, c'est assez solide comme échantillonnage. Mais on n'en est pas là.
Merci. Et concluez, s'il vous plaît.
En conclusion, les gens, ça démontre également, au-delà de tout ça, comment les gens aiment Saint-Mathieu. Que ce soit des gens du village ou des gens autour des lacs, que ce soit des résidents permanents ou des villégiateurs, vous allez avoir la population sur vos talons, monsieur le maire. Et si on veut que des élus performent, il faut leur pousser dans le dos.
Merci. Merci. Merci, monsieur.
Merci. Bon, bravo tout le monde.
Merci. Oui, madame.
Bonjour, c'est Joanne Bolduc. Moi, j'aurais une question qui m'aide dans la réflexion, qui m'aiderait, à savoir entre deux scénarios possibles. Donc, celui de continuer le projet puis pour l'obtention du paysage humanisé versus l'autre idée qui vient du mémoire de M. Bertrand, de créer un comité consultatif sur l'environnement typique, là, spécifiquement pour Saint-Mathieu-du-Parc. En termes de temps, ma question est celle-ci. Notre municipalité, là, elle a beaucoup de besoins, tout le monde le sait. Là, les routes, moi, j'ai de la misère à prendre le chemin principal là, pour aller à Saint-François. Là, c'est quasiment en déroute, et etc. On le sait, les ponceaux, on a beaucoup de besoins financiers et de besoins en termes de temps du conseil municipal. Fait que ma question, c'est en termes de temps, et non pas nécessairement, là, cette fois-ci, d'argent, créer un comité consultatif pour l'environnement par rapport à l'autre scénario qui, selon moi, va monopoliser beaucoup le conseil. Autrement dit, c'est que ma crainte, c'est que moi, j'aimerais mieux laisser du temps disponible au conseil pour travailler sur plein de dossiers, et d'avoir le comité consultatif qui, lui, travaille très fort et travaillera conjointement avec l'urbanisme et répondra à, je pense que j'écoute les arguments souvent valables des deux côtés. Puis, tu sais, M. Bruno, c'était bien de faire l'historique, tout ça. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on avance. Malgré paysage humanisé ou pas, on avance. Et bravo, c'est grâce à tous. Tout le monde a les mêmes... oui, c'est émotif, mais tout le monde souhaite la même chose, le bien-être et la pérennité pour nos enfants. Merci. Et petits-enfants.
Merci, madame. Merci.
Alors, mais j'aimerais avoir la réponse oui. Pour oui, le temps. Merci.
C'était pour que vous complétiez. Allez-y.
Écoutez, premièrement, je ne veux rien enlever à M. Bertrand. C'est quelqu'un qui est, je dirais, dédié, puis qui a souvent des bonnes idées. Mais la création du comité consultatif en environnement, c'était une promesse électorale d'Action citoyenne aux élections l'automne dernier. Ça fait que, évidemment, qu'on appuie ça. On avait prévu en discuter lors des consultations cet automne sur les services directs rendus aux citoyens. Pour répondre à votre question, évidemment qu'un comité consultatif en urbain. Moi, en fait, là où je suis rendu, là, j'appellerais ça un comité scientifique consultatif, qui pourrait déborder un peu même l'environnement, qui pourrait nous aider à prendre des décisions éclairées quand il est temps de s'occuper de notre réseau d'eau potable, par exemple, ou nos travaux d'ingénierie, etc. Mais l'environnement serait couvert énormément, évidemment. Là. C'est quelque chose qui décharge le conseil d'une tâche. Mm-hmm. On met ça dans les mains d'experts, puis on leur demande de nous revenir avec un avis. Fait que oui, c'est plus vite, c'est plus actif, c'est plus efficace, puis ça permet au conseil de réagir, je dirais pas de se tourner sur une scène, là, mais de réagir plus vite. Le projet de paysage humanisé, je vous dirais, basé sur... Moi, je suis là-dedans depuis un an. J'ai tout lu. J'ai parlé à tout ce qui bouge. Je vous dirais que c'est un guess. Là. Si on embarque puis je me trompe, vous allez être les premiers à me le dire. Ah, tu t'es trompé. Là. Mais je vous dirais qu'au minimum, pour arriver à l'étape d'un plan de conservation approuvé par le ministre, on en a pour 5 ans. Minimum. Alors, ces 5 ans de travaux, ben, je ne dirais pas à temps plein, mais c'est de l'argent, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est 5 ans.
Okay. Merci. Merci. Est-ce que je peux conclure par une question?
Concluez, oui.
Mon mari me dit souvent ça.
C'est un hasard.
Est-ce que le conseil municipal et vous, monsieur le maire, pouvez nous donner la certitude que si les gens votaient pour ne pas continuer le processus, vous vous engagez à créer ce comité consultatif scientifique?
Écoutez, comme je viens de le dire, ça faisait partie de notre plateforme électorale. Donc, on est 4 qui ont été élus d'Action citoyenne, c'est la majorité. On n'a pas rediscuté de ça dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce que ça va faire partie de la consultation de cet automne. Alors, si vous me demandez, vous, personnellement, vous engagez-vous? Certainement, c'est une promesse électorale. Est-ce que je peux engager tout le conseil aujourd'hui? Non. Non, on va en discuter, mais... Je pense qu'avec ce que je vous donne comme information, il y a ce qu'il faut pour vous satisfaire de ma réponse.
C'est bon. Je vais faire comme votre mari, là, si ça continue. Là.
C'était juste oui.
OK, c'est bon.
Vous en déduisez ma position.
C'est bon, merci. Là, M. Bertrand, vous êtes conscient que vous êtes au deuxième tour.
Ah, je ne savais pas.
Non, ben moi, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas exprimées, qui désirent venir au micro? Ben, vous allez venir au deuxième tour aussi. Monsieur Bertrand, allez-y. Troisième tour? Non, allez-y, Monsieur Bertrand, puis vous irez après, madame.
Moi, je voudrais revenir sur la question du vote, la représentativité. Je pense, madame Laure, un bon point, puis il faut le travailler. Je vous encourage très fortement à aller dans le sondage. Pour aller chercher le maximum de personnes. Il y a beaucoup de monde qui vivent à l'extérieur de Saint-Mathieu qui ont les mêmes droits que ceux qui vivent à temps plein. Puis il faut tout faire pour aller les chercher, ces gens-là. Statistiquement, mon prof de statistique, qui était Michel Poudry du Lac-Souris, m'a dit que ça prenait au moins entre 10 et 15 de la population pour considérer la réponse comme étant valable. Ça reste à vérifier avec des profs de maths, mais j'ai toujours gardé ça dans la tête. T'sais. Si on atteint 15 %, puis là, il faut faire attention à l'autre point. Là, faites pas l'erreur des élections de donner un seul vote aux villégiateurs par maison. Là.
C'est bon,
faites
merci.
Pas cette erreur-là. Là, parce qu'actuellement, si vous donnez le nombre d'adultes par maison, ça va venir biaiser le vote. Là. On le vit à toutes les élections ici, là, pas nous autres. Là, toutes les ça, c'est un point considéré très important. Un vote, une maison, selon moi.
OK, merci. Madame, c'est à votre tour.
Catherine Lescope-Saint-Clair, Lac à la pêche. Eh bien, tantôt, ce que je n'avais pas terminé, en fait, c'est que comme ce qu'on a d'unique aussi, bien, c'est sûr, plusieurs l'ont dit, les forêts, les montagnes, un développement du territoire qui est quand même unique parce qu'on a beaucoup de lacs avec comme une rangée d'habitations, soit chalets ou maisons, puis parfois une deuxième. Mais c'est quelque chose que, comme certains ont dit, si on veut préserver ça, c'est une occasion aussi pour les générations futures de se dire on a quelque chose, on veut faire en sorte de le préserver. J'ai pas dit non plus qu'il y a des exemples au Québec, puis même des études qui montrent qu'avec protection de l'environnement, plus de nature, beaucoup de boisements, les prix des propriétés, au contraire, prennent de la valeur. Comme à Terrebonne, il y a un projet de refuge faunique qui a été créé, puis c'est sûr que les maisons autour, ce qui a été bâti au pourtour du refuge faunique a pris beaucoup de valeur. Et Rosemère, un autre exemple, peut-être vous connaissez dans la couronne nord de Montréal, où c'est très boisé, puis c'est très agréable de vivre là, et les maisons ont beaucoup de valeur aussi, maisons en général. Puis une petite remarque, un comité consultatif en environnement, les gens sont payés. Donc, quand on dit on n'aura pas assez d'argent, on cherche de l'argent, ça coûte cher, mais ça aussi, c'est pas gratuit. Tandis qu'on a une subvention, plusieurs l'ont fait remarquer, utilisons-la. Sinon, on la perd, notre subvention, là, pour rechercher ce qu'on peut faire donc, comme projet de paysage humanisé.
Merci, madame.
Je vous remercie.
Merci. Dans ce deuxième tour, je vais prendre les deux dernières interventions, puis on va passer aux prochaines étapes.
Moi, je pense qu'un comité consultatif scientifique en environnement n'est pas du tout opposé à un paysage humanisé. Il peut même être un apport à la démarche de paysage humanisé. Fait que je ne vois pas pourquoi on vient d'opposer un à l'autre. C'est comme pas le même enjeu, à mon avis.
OK, merci. Monsieur Gélina.
Je suis d'accord, François.
Au-delà de ce qui peut être interprété comme de la colère ou des émotions tantôt, c'est de la passion. Dites-vous bien ça, que la protection de l'environnement, je suis là puis je vais toujours y être. Okay? En fait, quand tu as passé de temps pour parler dans une intervention, tu le fais en deux. Ce que je veux dire, c'est que les ministères, tout est en place. On a des experts. Quand on a fait le règlement 2024-05, vous comprendrez que je ne l'avale pas, qui était la municipalité pour dire que d'ajouter un 10 mètres supplémentaire, ça protégerait l'environnement davantage de ce qu'elle protège là? Je regarde les résultats de nos lacs. J'ai été à GBMA et je suis encore représentant. Depuis 2008 que je les suis, et quand on voit les résultats au bas de la page, c'est marqué clairement, les RSDL le mentionnent, que les lacs sont pratiquement revenus à un état naturel de vieillissement. De quoi je m'inquiète? Sur quoi je me base scientifiquement pour dire que le 10 mètres de plus va protéger davantage l'environnement? Et il y a une dame, Mme Casey, qui disait tantôt, pourquoi on ne consolide pas ce qu'on a fait? Le 10 mètres, là, les associations, le regroupement travaillent activement depuis des années à favoriser la connaissance, le recouvrement des berges, les bandes riveraines. Puis au regroupement, je pourrais vous dire qu'on a des beaux projets qui s'en viennent à ce niveau-là. Pourquoi dépenser des sommes encore, davantage de sommes à la municipalité? Monsieur le maire l'a dit tantôt, là. On a tout ce qu'il faut en main pour développer notre propre plan. Le gouvernement, il dira jamais non. Ils mettent ça sur le plancher, puis après ça, ils laissent faire le travail aux municipalités. C'est connu, ça, là. Les gouvernements, s'ils peuvent shooter de quoi dans le cours, ils vont le faire. Mais pourquoi on ne fait pas travailler nos impôts, là, puis dire, regardez, là, vous travaillez, c'est correct, vous avez 3 800 employés. Tantôt, je n'ai pas nommé tous les ministères de l'Environnement à travers le Canada, les organismes mondiaux qui travaillent à la protection de l'environnement. Je ne suis vraiment pas intéressé. On ne dit pas non pour non à un projet, à la poursuite du projet. On ne dit pas non pour dire non. Ce que je dis non, c'est de débourser davantage de sommes, subventionnées ou pas,
merci.
Pour
merci.
Faire la job
merci, monsieur
d'un Julien. Ministère.
Merci. J'ai
5 secondes.
Vous avez le bénéfice du temps qu'on a disponible. Allez-y.
5 secondes. Je voudrais savoir comment on va considérer la liste d'appui que je vous ai remise. Je comprends bien que les gens qui auront eu la possibilité de s'exprimer parce qu'ils sont ici, on n'en tiendra pas compte. Mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voter et qui sont sur la liste d'appui, vous allez les considérer comment?
Un élément parmi d'autres qui va être pris en considération dans nos décisions, mais pas l'équivalent d'un vote, si c'est votre question. Les gens qui sont venus aujourd'hui sont déplacés, ils ont participé à la discussion, ils ont eu le pour, le contre. Ce que vous avez eu, ce n'est pas une pétition, c'est juste un endossement d'un mémoire. Il faut le considérer. C'est quand même 100 personnes, là, c'est pas rien. Je vous l'assure. Mais c'est pas l'équivalent d'un vote ici aujourd'hui.
Merci. D'ailleurs, vous faites le lien en parlant du vote avec les étapes qui suivent. Je vous laisse la parole pour la suite.
Alors, si vous le voulez bien, on serait rendu à justement à passer au vote. Alors, tous, aujourd'hui, en rentrant, vous avez reçu un bulletin de vote qui est très simple. Il y a un oui, un non. Il y a des gens qui vont passer au travers la salle pour ramasser vos votes. Et la question, je la répète, là, c'est êtes-vous pour ou contre la poursuite de la démarche du paysage humanisé? On a cru bon faire ça pour prendre le pouls de la salle, mais ce n'est pas un référendum. C'est pas définitif. Le Conseil va devoir réfléchir sur les prochaines étapes, notamment en ce qui a trait à la possibilité de faire un sondage électronique. Il n'y a aucune décision définitive qui se prend maintenant.
S'il vous plaît.
Alors, s'il vous plaît, je vous demanderais, une fois que vous avez voté, l'autre bout de votre bulletin de vote, de bien le chiffonner et d'aller le porter dans la grosse poubelle de recyclage à l'arrière, s'il vous plaît.
Est-ce que vous avez une question de privilège de processus, madame, quand vous levez la main? Il y a eu une réunion hier, alors...
Les gens avaient la possibilité, quand ils quittaient, de déposer leur vote dans la boîte de vote, et c'est ce qu'ils ont fait, madame. Oui.
C'est bon, merci. Merci, madame.
C'est la même chose que ceux qui supportent un mémoire, ils n'ont pas toute l'information.
Alors, c'est pas la quête dominicale, c'est le bac des votes.
Alors, pendant que les votes sont récoltés puis qu'on va passer au décompte, on va vous donner le résultat du vote avant la fin de la réunion. Et on va jaser un peu de conclusion là, en même temps. Là. On avait comme objectif, nous autres, le conseil, de rendre le concept de paysage humanisé plus compréhensible, plus concret. On voulait vous parler du cadre légal et réglementaire dans lequel ça pourrait se développer. On vous a proposé quelques avantages et inconvénients, mais on vous a surtout permis, je pense, on vous a donné l'opportunité de vous exprimer. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on a réussi notre objectif, on a atteint notre objectif. J'en suis très fier et je voudrais vous remercier tous de votre participation. Je voulais vous dire une dernière chose en termes de conclusion. Je l'ai dit hier, puis je le répète aujourd'hui. Puis je pense que Joanne Bolduc, a fait allusion à ça tout à l'heure. Pour nous, le Conseil, là, nouvellement élu, on avait comme promesse électorale de prendre une décision sur la poursuite ou pas de la démarche de paysage humanisé, mais pour nous, là, quoi qu'il arrive, quoi qu'on décide ensemble dans les prochaines semaines, la décision qu'on va prendre, le Conseil, sur le paysage humanisé, ça n'empêchera pas que la roue tourne. La protection de l'environnement, c'est quelque chose sur lequel on veut agir comme conseil. On va le faire, quoi qu'il arrive. On va peut-être s'embarquer dans la création d'un comité scientifique consultatif. On va peut-être se donner une politique de développement durable. Même s'il y a un paysage humanisé qui est en marche, le paysage humanisé ne couvrira jamais tout le territoire, je pense, il faut être réaliste. Et le paysage humanisé, ce n'est qu'une partie du développement qu'on souhaiterait pour Saint-Mathieu. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire, puis c'est des initiatives sur lesquelles on va mettre le temps et l'énergie nécessaire. Puis quand ça va être le temps d'en jaser avec vous autres, pour être sûr qu'on n'est pas dans le champ, c'est-à-dire probablement au printemps 2027, dans un an, on va redemander à vous rencontrer pour parler de où on en est rendu puis où est-ce qu'on veut s'en aller ensemble. Fait que finalement, en termes de prochaines étapes... Très simple, là. Les enregistrements vidéo, audio des réunions d'hier ou d'aujourd'hui vont être disponibles sur le web dès cette semaine. Les participants d'aujourd'hui, si vous avez des commentaires écrits que vous voulez nous faire après la rencontre, si vous voulez rajouter des choses, si vous voulez vous exprimer encore une fois, mais par écrit, vous êtes les bienvenus. On va prendre tout ce qu'on va recevoir puis on va mettre ça dans la balance avec tout le reste. Mais d'ici deux semaines, disons. On va avoir une ébauche de compte-rendu qui va être rendue disponible pour les participants d'abord. Tous ceux qui sont ici, on a votre adresse courriel. D'ici deux semaines, on vous envoie la première ébauche du compte-rendu de la réunion d'aujourd'hui, puis on vous demande vos commentaires. Après ça, on va se donner deux semaines pour en faire une version finale qu'on va rendre publique. Okay? Elle va être disponible sur les plateformes, sur le site Internet de la municipalité avant la fin du mois de juin. Puis... Il va être difficile, là, comme je le disais tantôt, on va devoir réfléchir aux prochaines étapes aussi, par exemple, comme un sondage. Fait qu'il est très difficile de mettre un sondage en place avant la fin du mois de juin. Donc, il va être très difficile pour le Conseil de prendre une décision sur le paysage humanisé à notre séance publique du mois de juillet, par exemple. Il faut être cohérent. Là. Si on fait un sondage, il faut qu'il soit disponible pendant des semaines. Mais bref, au nom du conseil, là, on s'engage à prendre une décision sur le paysage humanisé cet été. Puis n'oubliez pas, l'été, ça va jusqu'au 21 septembre. Là, il manque bien que le résultat du... puis on va attendre quelques secondes.
Non, l'ordinateur fonctionne.
Oui, bien sûr.
Juste une petite précision sur les comptes rendus, parce que j'ai pris des notes hier. Nathalie a pris des notes, puis Rick a pris des notes aujourd'hui. Nathalie les a pris hier. On n'a pas pris de notes sur ce qui était déjà dans les documents. Fait qu'on ne fera pas un compte rendu de ce qui est déjà dans les documents que vous avez eu ou que vous, que vous pouvez lire. Non. Ça va être plus un compte rendu sur les débats, sur les questions, les réponses.
C'est ce que ça doit être.
M'entends-tu?
Oui, non, c'est la façon de faire. Puis la présentation d'aujourd'hui va être attachée au compte rendu, par contre. Oui.
Aujourd'hui, on a déposé un vote.
Oui. Non, non. Si on décidait de faire un sondage, c'est un vote électronique. OK?
Donc aujourd'hui, c'est compliqué.
C'est-à-dire que ça va dépendre. Si on fait un sondage sur l'Internet et on a 50 réponses, pensez qu'on devrait laisser tomber ce qu'on a entendu aujourd'hui? Ça va dépendre. Là, vous allez devoir, à quelque part, faire confiance à vos élus. J'espère qu'avec toute la transparence qu'on a démontrée dans les 7 derniers mois, avec les consultations qu'on a organisées en permettant à tout le monde de s'exprimer, y compris des gens qui étaient fortement pour et des gens fortement contre, avec tout ce qu'on a fait, j'espère qu'on a mérité un petit peu votre confiance puis qu'on va pouvoir compter là-dessus. OK, merci.
Alors...
Ils ont reçu le résultat, puis je vais vous le donner aussitôt que je vais avoir le vôtre.
L'ordinateur s'en vient.
Merci beaucoup, Evelyne.
On la
remplacerait
pas par l'intelligence artificielle.
Et que j'aimerais ça avoir une petite calculatrice. Je veux avoir le pourcentage du total. Okay? Donc, fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. 13. Okay? Master, dis-moi, 98, 101 divisé sur 152.
66% de deuxième.
OK. Alors, en termes de résultats aujourd'hui, on était des gens qui ont voté. Il y a eu 116 votes aujourd'hui. Je pense qu'en termes de participation, on avait un petit peu plus que ça. C'est donc dire qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas voter. Mais il y a des gens qui nous l'avaient dit devant le micro, d'ailleurs. Il y a 78 personnes qui sont pas pour la poursuite. Puis il y a 38 personnes qui sont pour. Ce qui fait... Et le total fait 116, donc c'est à peu près deux tiers, un tiers. Si on ajoute, hier, les résultats qu'on a eus, c'était 23 personnes qui s'opposaient à la poursuite et 13 qui étaient en faveur. Fait que si on additionne tout ça, puis, ça donne exactement, à la virgule près, deux tiers des gens qui ont assisté aux deux rencontres qui sont contre la poursuite de la démarche et un tiers qui est pour. Donc 66,6% contre, 33,3% pour. Mais ce n'est pas la fin de la réflexion. On se donne encore du temps, comme je l'expliquais. Là. Mais en tout cas, là, j'arrête, puis je vous dis merci. Merci du fond du cœur, puis belle fin de journée à vous.